Sur le pas de la porte, Madame Piniska, 50 ans, coiffée d'un foulard en soie sévèrement ajusté autour de ses traits nets, m'examina de la tête aux pieds, le sourcil arqué, la bouche pincée, comme si j'étais une erreur. « Trop costaud, » conclut-elle. « Oh, trop costaud ? Pourquoi ?» Haussant les épaules, elle dégaina un fume-cigarette, cala son coude gauche sous sa main droite, approcha l'embout de ses lèvres. « La fumée ne vous dérange pas ?» Sans attendre ma réponse, elle s'engouffra dans l'appartement, persuadée que je la suivais. Après avoir emprunté un couloir ténébreux, obstrué par trois chats qui me jaugèrent avec mépris, j'accédai au salon de musique encombré de multiples tables basses sur lesquelles s'entassaient les partitions. L'air véhiculait des odeurs de roses et de tabac brun. « Couchez-vous sous le piano !»« Pardon ?»« Couchez-vous sous le piano !» Elle me désigna le tapis persan déployé sous son pléiel à queue. Puisque j'hésitais, elle ajouta « Vous craignez les acariens, peut-être ? Oh, vu votre carrure, ce sont eux qui devraient se méfier. » Je m'accroupis, me glissai sous le piano et entrepris de ramper. « Sur le dos !» Je m'allongeai, le visage face à la table d'harmonie. Les bras en croix et les paumes au sol. J'obéis. Un matou à la fourrure fauve se faufila dans la pièce, sauta sur un pouf et s'y carra en m'adressant un regard ironique. Madame Piniska s'assit devant le clavier. Concentrez-vous sur votre peau. Oui, votre peau. Votre peau partout. Rendez-la perméable. Chopin a débuté ainsi. Il s'étendait sous le piano de sa mère et ressentait les vibrations. La musique, c'est d'abord une expérience physique. Puisque les avares n'écoutent qu'avec leurs oreilles, montrez-vous prodigue, écoutez avec votre corps entier. Elle joua. Comme elle avait raison, la musique me frôlait, me léchait, me piquait, me pétrissait, me malaxait, me ballottait, me soulevait, m'assommait, me brutalisait, m'exténuait, les basses me secouant comme si je chevauchais une cloche d'église. Les aigus pleuvant sur moi, gouttes froides, gouttes chaudes, gouttes tièdes, lourdes ou ténues, en rafales, en ondées, en filets, tandis que le médium onctueux me recouvrait le buste. Tel un molleton rassurant au sein duquel je me blottissais. Je sifflais subjugué. « Bravo, magnifique, vous avez beaucoup de technique. »
Un billet pour le pays des merveilles, le pays d'Ikea.
De l'autre côté, l'hôtesse regarda Ayatollah en haussant de surprise ses sourcils épilés. Puis elle sourit. « Le pays d'Ikea, » répéta-t-elle. Oh, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Le pays d'Ikea, s'empressa-t-elle de dire en se mettant à pianoter sur le clavier à toute vitesse. J'imagine que c'est la Suède ?
C'est bien la Suède, reconnut l'Indien, pensif.
Oh, cela emboucherait un coin à Gérard François quand il saurait que son écrivain était parti jusqu'en Scandinavie demander à monsieur Ikea himself de lui fabriquer un lit à clous rien que pour lui. « Vous avez un Paris-Stockholm dans 45 minutes, » dit l'hôtesse. « En revanche, c'est un low-cost. »«
Un low-cost ?»«
Ryanair est aux avions ce que Ikea est aux armoires, si vous voyez ce que je veux dire. » Ayatollah s'imagina sur la piste, en train de monter son avion en aggloméré de bois, pièce par pièce, à l'aide d'un mode d'emploi incompréhensible et d'une petite clé octogonale.
L'avion, il faut le monter soi-même ? Parce que j'ai bien peur qu'il me faille un peu plus de 45 minutes.
La jeune femme éclata d'un rire nerveux. Mais pourquoi moi ? Mais mon Dieu, pourquoi moi ? Qu'on en finisse et qu'il s'en aille. Et elle regarda si l'homme n'avait pas caché une kalachnikov sous son affreux petit pull en laine. Il la retirerait doucement, la pointerait et lui dirait « Partons tous les deux au pays des merveilles !» avant d'appuyer sur la détente. Après tout, il avait le teint bronzé. Il s'agissait sans doute d'un de ces djihadistes dont on parlait en boucle au journal télévisé et qui se fondait de plus en plus dans la population locale. Non, non, low cost, ça veut dire que vous payez tous les services. Le choix du siège, le plateau repas, les bagages que vous enregistrez. On rogne un peu sur tout, mais pas sur la sécurité, si c'est cela qui vous inquiète. C'est alors qu'elle le vit. Comme une scène au ralenti, l'homme sortit quelque chose de sa poche arrière de son pantalon. Elle recula un peu, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que l'objet n'avait pas la forme d'un pistolet ou d'une bombe. Ça avait plutôt l'air la forme d'un livre. Elle souffla. Et alors qu'il sortait de la même poche un portefeuille et comptait ses billets, elle s'efforça de voir le titre du roman. Elle ne comprit rien, car ce n'était pas en français. Peut-être du polonais. Et en jugeant par la couverture, la scène du fameux baiser entre Clark Gable et Vivian Leigh, il n'y avait aucun doute possible, il s'agissait de « Autant en emporte le vent ». Oh, mon Dieu, c'était plus grave que ce qu'elle pensait. Lorsque Aya Chartreux repartit, billet en main, l'hôtesse put s'évanouir tranquillement derrière son guichet. Au moins, elle aurait quelque chose à raconter au dîner, ou aux médias peut-être. Après tout, elle venait de survivre à une potentielle attaque terroriste. Un de ces mecs qui déboule en tenue commando et brandissant le Coran dans une main et une kalachnikov dans l'autre, lui demanderait-on ? Oh, je ne sais pas, lui, il portait un horrible pull de Noël en laine et lisait « Autant n'emporte le vent » en polonais.